autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Charles Pélabon à la réalisation pour nous demander pourquoi faire l'économie du bonheur et surtout comment peut-on mesurer quelque chose d'aussi subjectif et impalpable que le bonheur, à quoi ça sert, non pas le bonheur, mais sa mesure à côté du PIB ou du taux de chômage. Le bien-être pourrait-il être un nouvel indicateur économique, fiable ? Une question, presque un défi, relevé par des économistes qui se sont demandé si l'argent fait le bonheur. Est-ce que la croissance rend les gens plus heureux ? Est-ce que la décroissance pourrait être une option pour plus de bien-être. Leur piste de réponse, souvent paradoxale, brise pas mal d'idées reçues et nous renseigne aussi sur notre nature humaine, forcément changeante et peut-être pas si apte au bonheur que cela, comme nous allons le découvrir avec notre invité, l'économiste Claudia Sénic, autour de la question « Pourquoi faire l'économie du bonheur ?» Bienvenue. Bonjour Claudia Sénic.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour tenter de faire donc l'économie du bonheur. C'est le titre de votre essai qui vient de paraître au Seuil. Vous êtes professeur à la Sorbonne et à l'École d'économie de Paris et l'une des spécialistes internationales de l'économie du bien-être et de l'économie comportementale. Vous êtes donc une économiste qui travaillait sur notre ressenti. C'est mesurable ça ? C'est mesurable le bonheur ?
C'est mesurable, oui, mais à condition en particulier de le demander aux gens tout simplement. En fait, on facilite la tâche, puisque au lieu d'essayer de le mesurer en cherchant nous-mêmes à le définir à l'issue d'un grand débat entre experts, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux gens eux-mêmes de se donner une note à l'issue de leur propre travail de synthèse personnelle, donc sur une échelle graduée, un peu comme pour la douleur dans les hôpitaux. Donc de 0 à 10, est-ce que vous êtes satisfait de votre vie ? Est-ce que vous êtes content ? Est-ce que vous êtes heureux ? Globalement, tout bien considéré. Et donc les gens s'attribuent eux-mêmes à une note subjective.
Et c'est là-dessus que vous travaillez ?
Voilà. Et après, on peut mettre ça en relation, évidemment, avec les autres aspects de la vie des gens, leurs conditions de vie, leur métier, etc. Et essayer de comprendre ce qui fait que quelqu'un se déclare plus heureux une année que l'année passée, ou que quelqu'un se déclare plus heureux que quelqu'un d'autre.
Autour de la question pourquoi faire l'économie du bonheur et surtout pourquoi s'en priver, on commence par quelques pistes de réflexion en quête d'un bonheur national et international brut avec le mix de Charles Pélabon.
Voltaire le disait, la grande affaire, et la seule que l'on doit avoir, c'est de vivre heureux.
Oh mon Dieu, quel bonheur ! Voilà qui va calmer tout à fait les esprits.
Qu'est-ce que bien vivre ?
Ici, la bonne humeur semble contagieuse. Ils appellent cela... Le bonheur. Et ce sont des études très sérieuses qui l'affirment. Les Danois sont les plus heureux au monde.
Parmi les enfants de l'ère post-communiste, Philippe, l'époque soviétique lui semble irréelle.
C'est comme si notre génération vivait dans un monde différent, comme Alice au Pays des Merveilles.
On s'est rendu compte qu'être heureux, c'était bon pour la santé.
La seule manière dont l'argent contribue au bonheur, c'est quand on arrive à gagner plus que les autres.
Vous parliez de croissance accélérée.
Oui, c'est essentiel.
Nos sociétés n'ont jamais été aussi riches, riches de biens matériels.
Mais alors, comment expliquer que dans le même temps, notre consommation d'antidépresseurs a triplé ?
Le malheur des uns et le bonheur des autres, c'est la même histoire. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir.
Comment le mesure-t-on, ce bonheur ?
Voici la jaugette pour mesurer la charge.
L'économie du bonheur, c'est vraiment un domaine dans lequel on n'est pas doué.
Le bonheur pourrait faire partie de ces choses qui ne s'évaluent pas d'une façon si facile à mesurer, ce qui vient rendre un peu compliqué de s'en servir comme marqueur de la valeur d'une économie.
Le bonheur, c'est quoi ?
C'est une bête à chagrin. Et on s'aperçoit que finalement, vivre à l'écart de cette quête du bonheur, c'est pas mal non plus, parce que ça permet de vivre le moment présent avec intensité.
Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve.
Avant qu'il ne se sauve, le bonheur, Claudia Sénic, vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre ?
Tout est très intéressant.
Des pistes pour vous. Parce que tantôt la question, pourquoi faire l'économie du bonheur ? Alors, vous l'avez dit, vous vous placez pas du point de vue philosophique, vous ne cherchez pas à définir le bonheur, qui fut une idée nouvelle et après laquelle nous courons tous. Hein. C'est même devenu presque un devoir aujourd'hui, un objectif. Le bonheur, vous le cherchez du point de vue économique, vous vous intéressez au lien avec la richesse. Et c'est pas une idée nouvelle en économie, c'est l'économie du bonheur, elle est née quand ? Dans les années 70 aux États-Unis, c'est ça ?
Voilà, à partir du moment où on a commencé à avoir des observations, des données. On n'a pas posé cette question dans les enquêtes et avoir accumulé pas mal de recul, on s'est mis à étudier la relation entre le bonheur et puis les conditions de vie des gens. Donc moi, effectivement, ce qui m'intéresse dans cette question, c'est est-ce que en tant qu'économiste, on a le moindre levier sur le bonheur des gens? Est-ce que l'économie sert à quelque chose? Est-ce que la croissance va quand même aider les gens à être plus heureux, sachant que c'est l'objectif légitime de nos sociétés démocratiques, en tout cas. Donc on peut se poser d'autres questions, mais en tant qu'économiste, c'était la question qui m'intéressait, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est qu'on a quand même quelques leviers.
On a quand même quelques leviers, mais qui sont pas toujours ceux qu'on croit. Alors au début, quand même, dans les années 70, justement aux États-Unis, les premiers économistes qui se sont posés cette question, il y en a un, il s'appelle Richard Easterlin, qui l'a posé de façon assez ironique. Est-ce que l'élévation justement du revenu de tous augmentera le bonheur de tous? Et la réponse n'était pas vraiment positive.
Voilà, la formulation de la question laissait déjà comprendre qu'il avait envie de répondre non. Est-ce qu'en augmentant le revenu de tous, on va augmenter le bonheur de tous? Donc on voyait bien que c'était une question effectivement ironique. Et lui, il a montré que sur le long cours, même si, par exemple, après-guerre, pendant les 30 années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, le revenu par tête avait pu être multiplié par 3 aux États-Unis ou même encore plus au Japon, quand on comparait le bonheur moyen déclaré par les gens au début de la période et puis 30 ans après, en fait, en moyenne, ça n'avait pas augmenté. Donc, il en a conclu que toute cette croissance économique, tous ces efforts, tout ce travail, toute cette société capitaliste, en fait, ne servait pas à grand-chose du point de vue du bien-être et du bonheur des gens, et qu'il fallait donc songer à s'organiser autrement et peut-être à faire l'économie autrement. Donc, ça a été vraiment la bouteille à encre qui a ouvert ce champ de recherche, à la fois pour voir si ce fait stylisé, comme on dit, était vrai, pour essayer de le remettre en cause peut-être avec des nouvelles données, des méthodes plus sophistiquées.
C'est justement
et puis pour expliquer aussi.
Pour expliquer, c'est un peu ce que vous avez fait, parce que, Claudia Sénic, pour vous, le point de départ de cette économie du bonheur, c'est quoi? C'est une enquête qui n'allait pas dans le même sens que justement ce que vous aviez vu auparavant.
Ah, pour moi, personnellement?
Oui.
Oui, exactement. Parce qu'en fait, une fois qu'Easterlin a ouvert ce champ, les gens ont essayé d'expliquer pourquoi, éventuellement, la croissance pourrait ne pas conduire à un bonheur plus élevé. Et les deux pistes d'explication, qui sont quasiment les mêmes d'ailleurs. La première, c'est parce que tout est relatif. On entendait Daniel Cohen tout à l'heure dans la bande son qui disait la seule chose qui me rend heureux, c'est d'être plus riche que mon voisin. Donc si tout est relatif, évidemment, c'est pas en augmentant le niveau de tout le monde qu'on va augmenter le bonheur, parce qu'en fin de compte, ça sera un jeu à somme nulle. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Bon, c'est la vision marxiste d'un jeu à somme nulle. Et l'autre explication, c'est qu'on s'habitue au cours du temps à ce qu'on a, et donc même si on pense que en élevant son niveau de vie, on va être plus heureux, ça se produit au début, mais au bout d'un moment, ça passe.
Et au bout d'un moment, ça passe. C'est un peu, vous lisez dans votre livre, la première bouchée d'un gâteau, c'est toujours la meilleure. Donc, au bout d'un moment, on s'habitue.
En fait, je crois que je me suis trompée pour le gâteau, parce que la dernière bouchée est très importante, en fait.
Aussi,
visiblement. Et donc, en fait, après, il y a eu beaucoup de travaux empiriques, c'est-à-dire avec les données, qui ont essayé d'illustrer d'illustrer cette idée des comparaisons. Donc, mettre en évidence le fait que moi, connaissant le revenu que j'ai, le niveau de vie que j'ai, si j'apprends que les gens que je fréquente ou mes collègues ont un revenu plus élevé, eh bien, ça va me rendre moins heureux. Donc, l'écart entre mon niveau de vie et celui des autres aurait un effet négatif sur mon bien-être.
Et donc, finalement, on serait toujours malheureux, et pas plus heureux, puisque si le voisin a plus que nous, on sera malheureux, c'est
voilà.
ça
Voilà, hein si le voisin a plus que nous, on serait malheureux. Donc ça, c'est ce que montraient les travaux existants, et notamment un article fondateur de mes collègues Andrew Clark et Andrew Oswald. Alors moi, j'ai travaillé pendant 10 ans sur la transition dans les pays de l'Est, et au bout de 10 ans, il y a une enquête fantastique russe qui s'appelle RLMS, qui interroge des dizaines de milliers d'individus tous les ans, année après année, en leur posant plein de questions sur leur bonheur, leur ressenti, leur satisfaction dans la vie, etc. Et donc, naturellement, j'avais envie de savoir si cette libéralisation politique et économique qui avait été voulue par les citoyens de cette région, les avait conduits à une plus grande satisfaction dans la vie, et notamment sachant que les inégalités de revenus dans cette région s'étaient énormément augmenté.
Donc normalement, ça aurait dû quoi? Les rendre plus malheureux.
En tout cas, j'ai commencé à regarder ces données, voilà. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, je vais commencer par répliquer l'article de Clark et Oswald, puisque c'est comme ça qu'on fait, pour voir si j'obtiens le même résultat, et puis pour me lancer, quoi. Donc, j'ai fait exactement la même chose qu'eux, de la même manière, et j'ai obtenu le résultat inverse. Je me suis rendu compte que dans ces pays-là, dans les années 90, en Russie, en Hongrie, en Pologne, dans les pays baltes, etc., connaissant mon revenu et voyant le revenu des gens qui avaient les mêmes diplômes que moi et la même formation, eh bien, lorsque le revenu de ceux-ci augmentait, ça me rendait moi plus heureux. Pourquoi? Parce que dans cette phase de transition et de changement, le revenu d'autrui, c'était une information, un signal sur ce qui était possible pour moi.
Ça me rendait pas jaloux, mais voilà. Ça me faisait signe, moi aussi peut-être.
Ça me faisait signe, ça m'apprenait quelque chose sur les opportunités qui m'étaient ouverte. Donc, autrement dit, autrui, c'est pas toujours une onde de comparaison et de jalousie. Ça peut aussi être une source d'information sur le monde qui m'est ouvert et les opportunités dont je dispose. Et ça, ça a un impact très important. Ça veut dire que les inégalités n'agissent pas toujours de la même manière sur la satisfaction ou le bonheur des gens. Ça dépend comment ils les interprètent. Est-ce que les inégalités, c'est quelque chose qui est donné et qui ne leur apporte rien que de la frustration et de la domination, ou est-ce que c'est synonyme d'opportunité?
Ah, et tout est là finalement, tout est là. Tout est paradoxal autour de la question, pourquoi faire l'économie du bonheur et pourquoi finalement on veut toujours plus, hein, de quelque manière que ce soit. On écoute Top of the World, Robin Thicke, et oui, une chanson que vous avez choisie, Claudia Sénic, vous allez nous expliquer pourquoi ensuite.
Yeah, Robin Thicke. Summer. I'm on top of the world, on top of the world. I'm on top of the world, on top of the world. I'm on top of the world. She was a little girl picked on in school. Yeah, she had funny teeth. All the kids called her toothed. Years later, when her mom got sick, she did everything she could, but mama won't rich. She didn't stop work 10 different jobs. Yeah, that put her through community college, waitress, retail, hot dog on a stick, telling herself that it won't end like this. Now she the boss, she the boss, she the boss. You see her round her neck, yeah, you know what it costs. Now she the one with a smile on her face, 'cause no one gave it to her. She earned that feeling. Come on, come on, now you're feeling like a pimp. You got everything you want, no wonder. Come on, come on, 'cause you never gave up. Now you're singing that song all summer. I'm on top of the world, on top of the world. I'm on top of the world, on top of the world. I'm on top of the world, on top of the world. I'm on top of the world, top of the world. And now she wanna find love, and she can't. Somebody who can hold umbrellas in the rain. But she's a little hardcore with the pros. Could be goodbye, goodbye for us. Hello, hello. Before you say a word, better have a breath. Say it on the mind, you can end up. I'm a sometime, but she's a lifestyle. I got a big hammer, but baby's a hard rock. Come on, come on.
Robin Thicke sur RFI, On Top of the World. C'est le bonheur, ça, Claudia Sénic, d'être on top of the world. C'est pour ça que vous avez choisi cette chanson.
Mais je crois qu'en fait, quand on est très heureux, on se sent on top of the world. On a l'impression que c'est le moment où le monde nous appartient, ou en tout cas, on est en train de vivre le maximum de ce qu'on peut vivre.
Voilà pourquoi vous avez choisi cette chanson, parce qu'en plus le héros il vient des ghettos noirs américains et qu'il est arrivé.
D'abord c'est une fille.
C'est une fille, hein. Ouais,
d'abord je trouve que ça fait un bon pendant avec Good Girl de Robin Thicke, qui est exactement le contraire, qui est vraiment la chanson macho Good Girl. Donc là c'est, d'après ce que je comprends, c'est une petite fille afro-américaine qui n'est vraiment pas dans les bons endroits, et puis qui toute seule finalement arrive là où elle veut et qui se sent du coup au top of the world. Et donc c'est vraiment ça l'idée du mouvement, du projet.
On va y revenir, hein, autour de la question pourquoi faire l'économie du bonheur, et surtout comment. Question d'abord de méthodologie, soulevée par l'historienne des sciences Valérie Jean-Sigaud.
Penser qu'on peut, avec un modèle mathématique, arriver à évaluer quelque chose d'aussi complexe, d'aussi ambigu, d'aussi contradictoire, d'aussi dépendant de la culture locale dans laquelle on se trouve, parfois même de sa culture de classe dans laquelle on est, pour évaluer le bonheur, je sais que c'est quelque chose qui génère beaucoup d'activités scientifiques, mais on peut se poser beaucoup de questions en termes de méthodologie et de la capacité d'avoir des résultats qui décrivent une réalité réelle et pas simplement une réalité qu'on a produit parce qu'on a fait un instrument de mesure, en fait. Ça, c'est vraiment une question de méthodologie que je me pose beaucoup. Et là, l'histoire permet effectivement de se poser beaucoup de questions par rapport à ça. Et puis au fil du temps, c'est-à-dire que c'est une idée qui remonte à loin, et en fait on se dit, voilà, comment comparer le bonheur d'une population d'aujourd'hui, alors là aussi laquelle, dans quel pays, dans quel contexte, dans quelle classe, dans quelle situation, à la situation du bonheur qui pouvait exister, je sais pas, moi, dans l'Angleterre victorienne, sous la France bonapartiste, ou d'autres choses. C'est très compliqué, et c'est des questions de méthodologie qui m'interpellent beaucoup. C'est-à-dire, derrière effectivement le raisonnement que je comprends et qui est intéressant, vraiment c'est des questions absolument passionnantes, il reste quand même la question de la méthodologie derrière, qui permet de savoir est-ce qu'on parle vraiment de quelque chose qui est, entre guillemets, mesurable. Le bien-être, ouais, j'ai beaucoup de doutes.
Est-ce que c'est mesurable, le bonheur, le bien-être? Que pouvez-vous répondre à Valérie Chansigo, Claudia Sénic?
Elle a tout à fait raison, bien sûr. Une des questions importantes quand on traite ces données, c'est de prendre en compte les effets de contexte. Donc, justement.
Les effets de contexte.
Le fait que les gens répondent à cette question, en fonction de la manière dont ils comprennent la question, du bonheur, de ce que ça signifie pour eux concrètement. Et puis aussi, en fonction de la manière dont ils interprètent cette échelle, qui est une échelle bornée, c'est-à-dire qu'on peut aller que de 0 à 10. Et donc, effectivement, au fur et à mesure que le contexte change, la manière dont les gens comprennent ce que c'est que 0 et ce que c'est que 10 change. Pourquoi ? Parce que si je dois mettre une note entre 0 et 10, je vais interpréter ce 0 comme étant la situation la pire possible pour moi aujourd'hui. Donc, c'est sachant que je suis en France, dans un pays en paix, enfin, relativement, et enfin, pour l'instant, et 10, la situation la meilleure possible. Si on avait posé cette question à mes grands-parents, évidemment, le contexte qu'ils auraient associé à chacun des échelons aurait été différent. Donc, elle a tout à fait raison.
Et c'est vraiment du subjectif.
C'est du subjectif. Donc, comment faire ? Bon, d'une part, en essayant de mesurer ce contexte autant que possible, on fait des régressions, on fait des analyses économétriques dans lesquelles on prend plein de choses en compte en même temps. Deuxièmement, quand on interroge les mêmes personnes au cours du temps, ça permet d'avoir un contexte qui est à peu près identique et de regarder vraiment uniquement ce qui change pour une personne. Enfin, ça permet de contrôler pour ces
choses-là. Oui, vous faites ça au fil du temps. Enfin, c'est quand même sur plus.
Voilà.
C'est en fait au long cours.
Idéalement, interroger les mêmes gens année après année, ça permet de voir vraiment l'impact de ce qui bouge pour ces gens-là, de ce qui change dans leur vie sur le bien-être. Et puis, la remarque de l'interlocutrice, moi, je suis complètement d'accord avec elle. C'est pour ça qu'Easterline, ça ne m'impressionne pas tellement.
Parce qu'en fait,
fait que sur le long cours, c'est-à-dire sur des très longues périodes, le bonheur moyen déclaré par les gens n'augmente pas. En fait, ça a stimulé beaucoup ce champ de recherche, donc tant mieux et merci. Mais en même temps, ce n'est pas tellement étonnant parce que les gens vont toujours se situer sur l'échelle par rapport à ce contexte qui change. Et donc, on ne peut pas espérer que tout le monde, que la note monte et puis tout le monde se trouve coincé à 10 et puis qu'après on ne peut plus augmenter. Les gens vont réévaluer l'échelle. Donc autant sur le court terme, on voit très bien que le bonheur déclaré par les gens en moyenne suit par exemple la conjoncture économique. Il augmente en période de boom et il diminue en période de récession.
Il est lié à la richesse.
Il est vraiment lié à la richesse, il est vraiment lié à la conjoncture économique.
Les l'argent n'est pas le bonheur, mais il aide grandement.
Non, ça, c'est vraiment corrélé. Mm-hmm. Les habitants des pays les plus prospères se déclarent plus heureux que les habitants des pays pauvres. Autant sur le long cours, on a effectivement ce phénomène de contexte qui fait que comparer des moyennes à des époques éloignées de 50, 30 ou 50 ans, ben en fait, c'est difficile. Donc, je souscris totalement à ces remarques méthodologiques qu'il faut prendre en compte, justement, sérieusement.
Et il faut prendre en compte aussi l'esprit humain. Parfois, vous flirtez un peu avec la psychologie. Mmh. Et le fait que vous le dites aussi, on s'habitue finalement. Alors, on s'habitue à un niveau de confort, on s'habitue à une certaine idée du bonheur. Et quoi, au fond, on en voudrait toujours plus, on en a besoin de changement, de toujours plus, de...
On s'habitue certainement, oui, non seulement au niveau de vie que l'on atteint. C'est vraiment une grande question, c'est-à-dire Easterline a suggéré qu'on s'habituait à tout, et puis d'autres travaux, notamment qui ont été menés aux Pays-Bas, dans l'école qu'on appelle l'école de Leiden, ont suggéré que 60% d'une augmentation de revenus qu'on aurait connue à une année, ce serait déjà évaporé en termes de l'effet sur le bien-être au bout de 2 ans. Donc certainement on s'habitue parce que on a un niveau d'aspiration qui n'est pas donné une fois pour toutes, mais qui évolue avec le niveau qu'on a déjà atteint, le niveau de vie. Et donc si les aspirations, si ce qu'on espère, si ce qu'on veut, change avec le temps, et si la satisfaction ne dépend que de l'écart entre ce qu'on a et ce qu'on voudrait, à ce moment-là, l'écart ne se réduit jamais. Et donc, effectivement, le bonheur...
On veut toujours plus, mais c'est aussi le moteur et l'esprit humain qui veut avoir, vous le montrez aussi, on y reviendra, qui veut avoir des projets, une anticipation, qui veut avoir quelque chose devant, que ses enfants vivent mieux que lui aussi.
Ceci dit, je ne suis pas persuadée, les travaux ne montrent pas qu'on s'habitue complètement, c'est-à-dire que l'adaptation est totale. Je pense qu'il y a une partie qui est relative et une partie qui est absolue. Le niveau de vie absolu compte quand même, je prends toujours le même exemple, moi je pense que si on revenait aux couches lavables, si on supprimait Internet, qu'on devait de nouveau faire des photocopies à l'infini, etc.,
on en souffrirait beaucoup,
donc on s'habitue. Mm-hmm. Si on prend la peine de se souvenir qu'on a des choses, on jouit de certaines possibilités qu'on n'avait pas auparavant, on peut restaurer le bonheur des choses nouvelles que l'on a acquises.
Autour de la question pourquoi faire l'économie du bonheur, pourquoi restaurer et comment restaurer notre bonheur, on continue de s'interroger sur ce qui nous rend heureux ou pas, suite dans 3 minutes juste après le flash d'info. À tout de suite.
De la question. Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question « Pourquoi faire l'économie du bonheur ?» Comment mesurer quelque chose d'aussi subjectif et impalpable ? Nous sommes en compagnie de Claudia Sénic, professeure à la Sorbonne et à l'École d'économie de Paris, qui vient de publier « L'économie du bonheur » aux éditions du Seuil.
Alors l'économie du bonheur, c'est intéressant parce que est-ce que le bonheur a une valeur marchande ? Et ça, c'est une question que je me pose. Les choses qui me font le plus plaisir dans la vie, finalement, sont gratuites.
C'est le géologue Charles Frankel qui était récemment notre invité, qui dit tout haut ce que l'on sait bien au fond. Mais qu'en pensent les économistes comme vous, Claudia Sénic ?
Oui, bien sûr, ce qui fait le plus plaisir est gratuit au moment où ça se passe. L'amour, les relations sociales, l'art, la musique, bien entendu. Mais les conditions pour que ça se produise, les conditions pour le vivre bien, les conditions pour qu'il y en ait plus, probablement sont liées à l'économie quand même.
Sont liées à l'économie. Et pour vous, alors là, vous mettez un sacré pavé dans la mare de la décroissance, si j'ose dire. Vous dites, enfin, d'après votre enquête, vos travaux, que la décroissance, finalement, n'est peut-être pas une piste si pleine de bonheur que ça.
Moi, j'ai pas l'impression que ça soit une piste de bonne, destinée à créer du bonheur. En général, la décroissance, le discours décroissant va souvent avec un discours écologiste qui part du constat de la nécessité d'épargner la planète et les ressources de la planète, qui est un constat évident que tout le monde ne peut que partager. Et qui en déduit, enfin après qui glisse vers l'idée que mais en fait c'est pas finalement une contrainte, c'est plutôt bien, c'est même mieux et finalement on va être encore plus heureux. Alors c'est là que j'ai l'impression qu'il y a une confusion complète entre une contrainte et un objectif.
Oui, certains parlent de frugalité heureuse.
Voilà, donc autant il y a une contrainte écologique auquel il faut absolument s'adapter aujourd'hui et trouver une autre manière de créer de l'énergie, de vivre, de produire, etc. Autant je vois pas en quoi ça peut être un objectif et cette idée qu'en fin de compte on va supprimer le problème en prétendant que c'est une bonne chose me paraît artificielle et je me demande, enfin, j'ai l'impression qu'en réalité derrière ça il y a une critique fondamentale de l'économie de marché qui va avec la croissance et qu'en réalité l'écologie est pour, enfin, c'est très divers, les décroissances, c'est un mouvement très divers, mais pour beaucoup en réalité l'écologie est un prétexte et la décroissance c'est plutôt un discours anti-économie de marché.
Mais ça part quand même d'un constat qui est effectivement que plus d'argent, si l'argent fait le bonheur, en tout cas plus d'argent ne fait pas automatiquement plus de bonheur. Ça, c'est quand même une réalité.
Mais c'est-à-dire que plus d'argent, la richesse qui est créée au cours d'une année dans un pays, elle mesure l'augmentation de la valeur des transactions qui ont été faites. C'est-à-dire l'augmentation de la valeur qui a été créée et reconnue, validée socialement, puisque les gens ont accepté de payer pour des choses nouvelles. Donc, il est difficile de dire que c'est pas un surplus de bien-être, parce que si ça correspondait pas à quelque chose de mieux, à quelque chose de plus, à quelque chose qui globalement, collectivement, a été reconnu comme plus, ça serait pas une création de richesse. Donc,
Mais en même temps, se baser comme indicateur économique uniquement sur le PIB, ça pose problème. Il faudrait peut-être rajouter d'autres indicateurs, notamment celui du bien-être et du bonheur de la population.
Alors le rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi qui avait été commandé en 2009 par le président Sarkozy, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais l'idée c'était vraiment mesurer le bien-être au-delà du PIB, partait du constat évident que le PIB, donc le revenu par tête, cette création de richesse au cours d'une année ne mesure pas tout, puisqu'elle ne mesure que la création de valeurs marchandes, des choses qui ont été produites et vendues. Donc bien sûr, il y a plein de choses qui participent au bien-être, au bonheur, et qui ne sont pas achetées et vendues. Donc tout ce qui est travail domestique, tout ce qui est gratuit, donc si je me promène dans la montagne, à pied, je
ne contribue pas...
Ça participe pas à mon bonheur, ça participe pas au PIB. Si je prends le télésiège, ça participe au PIB. Bon. Donc ça ne mesure pas tout. Et puis il y a toutes les externalités, c'est-à-dire si je produis en polluant, ça crée une nuisance, qui n'est pas prise en compte, sauf si je le taxe. On peut le taxer, en fait. S'il y a des inégalités, des interactions entre les gens qui ne sont pas mesurées, ça ne rentre pas. La qualité des institutions, la qualité de la gouvernance, les droits, ça participe au bien-être, pas mesuré.
Et ça participe au bonheur.
Bien sûr, ça participe au bonheur, c'est très très important. La qualité des institutions et de la gouvernance est très importante. Alors après, la question, c'est, on peut et on doit, si on y arrive, mesurer toutes ces choses. choses-là. Et donc, le rapport proposait d'ajouter des indicateurs supplémentaires par rapport au PIB. Et puis, surtout, la partie que j'aimais bien, c'était sur les stocks. Le fait de mesurer tout ce qui n'est pas... parce que le PIB, c'est ce qui est créé au cours d'une année, c'est un flux. Mais il y a aussi les stocks, et notamment les stocks de matières premières, de ressources, l'air, l'eau. Ce sont des stocks qui peuvent s'épuiser, donc il faut les mesurer. Pour ça, j'aimais beaucoup cet aspect du rapport. Après, la question, c'est est-ce que le PIB, même s'il ne mesure pas tout, n'est pas suffisant finalement ? Parce que l'idée, c'est pas forcément de mesurer exactement pour mettre un chiffre sur le bonheur, parce que ça veut rien dire de toute façon. L'idée, c'est de pouvoir suivre l'évolution du bonheur. Et donc, si jamais le PIB augmente parallèlement au bonheur, s'il est très corrélé, bah, à ce moment-là, c'est une bonne proxy, comme on dit, c'est-à-dire c'est une bonne approximation. Et effectivement, quand on pense aux choses importantes de la vie, c'est-à-dire la santé, l'espérance de vie, le fait de pouvoir vieillir avec des moyens suffisants, une retraite...
ça, c'est même, très corrélé
même,
quand même.
Même voilà, le développement de la vitalité artistique d'un pays, etc. En fait, c'est extrêmement corrélé avec le PIB par tête, avec le revenu par tête. Donc, le revenu par tête n'est pas parfait, mais c'est une bonne proxy.
D'accord, voilà pourquoi vous êtes bien une économiste.
Hein. Voilà pourquoi je reste une économiste.
C'est ça, une économiste convaincue. En même temps, vous démontrez des choses assez étonnantes hein, dans cette économie du bonheur, sur ce sentiment donc subjectif, impalpable. C'est vraiment chiffre à l'appui. On n'est pas égaux devant le bonheur et on n'a pas le même sentiment face au bonheur selon l'âge qu'on a dans sa vie.
Oui, alors évidemment, il y a beaucoup de différences entre les gens concernant la capacité à transformer leur vie en bonheur ressenti. Et alors, oui, ça c'est vraiment quelque chose d'étonnant, c'est que quelque soit l'année ou le pays dans lequel les enquêtes sont menées, on a toujours cette courbe en U, où les gens se déclarent de moins en moins heureux au fur et à mesure qu'ils vieillissent, donc on part de 18 ans, et puis le bonheur déclaré par les gens, en moyenne, hein, baisse jusqu'à atteindre un minimum vers 45-50 ans,
45 ans
et puis ensuite,
pire, hein,
ça remonte. Et ensuite, ce qui est quand même une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle, mais 45 ans, c'est aussi le l'âge où le taux de décès par suicide
c'est ça,
est
ouais.
le plus important.
Voilà, donc c'est vraiment, ça veut dire que c'est pas un artefact, c'est vraiment le moment où les gens atteignent vraiment un minimum, on touche le fond.
Touche
et
le
puis
fond.
Ensuite, heureusement, ça remonte.
Ouf, autour de la question.
Donc
tous les espoirs sont permis quand
oui,
même.
Oui.
Autour de la question, comment faire l'économie du bonheur et comment le mesurer ou le cartographier cette fois-ci, je propose un nouvel éclairage, c'est celui du géographe Gilles Fumet, co-auteur de l'Atlas Global, dans lequel des chercheurs, géographes, historiens, démographes, ont cartographié notre monde, alors ils disent local, hein, global et local, avec notamment une étonnante carte du bonheur. Gilles Fumet nous explique la jeunesse de cette carte.
Elle est née, cette carte que l'on voit reformatée différemment, de cette provocation qui vient du Bhoutan, ce petit pays qui est dans les moins bien classés en termes de PIB par habitant, qui compte une population, dit-on, de chez nous, essentiellement pauvre, et dont le chef d'État explique que pour mesurer la qualité de vie des gens dans cette petite enclave de l'Himalaya, un autre indicateur que le PIB est possible, ce qu'il appellera le bonheur national brut. Voilà. Cette carte a fait beaucoup réfléchir parce que, évidemment, on a pensé que ce qui était valable pour le Bhoutan ne pourrait pas s'appliquer aux États-Unis. Néanmoins, ça a fait des tilts et ça a beaucoup gêné les gens qui travaillaient dans les sciences sociales, qui se sont posé la question de se dire, mais est-ce que finalement, les aspects de perception, la manière dont on imagine son mode de vie, dont on l'évalue par rapport aux autres, c'est pas quelque chose qui peut être cartographié. Et donc, on a une carte assez curieuse qui montre que, bon, évidemment, ce qu'on savait, mais ce qu'on n'avait pas représenté, c'est que le bonheur n'est pas indexé sur la richesse. Mais néanmoins, quand même, dans certains pays où il y a une véritable politique sociale, hein, où on fait attention à bien partager la richesse et à faire en sorte qu'il y ait le moins de gens à la marge, je pense aux pays scandinaves qui ont cette tradition de l'attention à l'autre, eh bien, on peut effectivement dresser une différence par rapport à des pays où la loi du plus fort est celle qui gouverne les relations.
Vous voulez réagir à cet éclairage du géographe Gilles Fumet, Claudia Sénic, dans cette carte du bonheur? Déjà, c'est le Danemark qui est en tête.
Oui. Alors, sur le Bhoutan, je sais pas, le Bhoutan a essayé de mesurer effectivement le bonheur national brut, parce qu'ils ont et donc en se disant, on va mesurer ce qui compte pour nous, ce qui est une bonne idée, dans l'absolu. Alors, ce qui comptait pour eux, c'était le maintien des traditions, la cohésion sociale, des choses qui étaient beaucoup plus liées à ce qu'on appelle un peu capital social, plus que la richesse. Et c'était une manière de dire, en le mesurant, on va se concentrer nos efforts sur ces objectifs-là.
Sur ce qui nous intéresse, nous.
Ouais, ils ont abandonné cette mesure récemment. Et puis, de toute façon, en termes de bien-être subjectif, le bouton n'était pas très bien classé, en fait. La note, c'est pas parce qu'ils ont décidé de le mesurer qu'ils ont forcément réussi à atteindre un niveau élevé.
Oui, mais c'est pas eux qui étaient les plus heureux et qui avaient le plus fort.
Ils étaient assez bas, en fait. Ouais. Alors après sur les critères, bon alors la démarche présentée par Gilles Fumet, c'est pas la même que la mienne, puisque eux ce qu'ils font c'est qu'ils définissent eux-mêmes les critères qui selon eux sont les plus importants pour le bonheur, et puis après ils les mesurent dans différents pays et établissent une hiérarchie. Donc ça c'est tout à fait leur droit et c'est intéressant. Après le problème c'est qu'on peut entrer dans des discussions interminables sur les différents critères à adopter, pourquoi celui-là plutôt qu'un autre, comment les pondérer.
Vous vous demandez aux gens eux-mêmes s'évaluer eux-mêmes.
L'idée de demander aux gens eux-mêmes, c'est que chacun répond en fonction de l'importance relative qu'il accorde aux choses. Donc quelqu'un qui est très pour qui l'intégration locale dans son quartier est très importante va prendre ça en compte et donner une note en fonction de ça. Quelqu'un pour qui ce qui compte c'est de faire du sport, c'est quelqu'un pour qui ce qui compte c'est les inégalités pondérera cet aspect plus fortement dans son propre indice. Donc on ne préjuge pas de l'équation de bonheur des gens, on la mesure, mais on les laisse le faire. Donc eux ils décident même des arguments de la fonction de bonheur et du poids de chacun de ces arguments, ce qui donne un côté un peu autoritaire. Enfin, je veux dire, si un gouvernement faisait ça, on aurait envie de dire, mais bon, est-ce que c'est vraiment ça qui compte pour nous?
Donc, au fond, vous vous renvoyez aussi, enfin, on y viendra, hein, mais c'est aussi, vous nous renvoyez chacun, un peu comme tous nos auditeurs, hein, qui ont réagi sur les réseaux sociaux, là-dessus, à la notion qu'au fond, le bonheur, c'est nous-mêmes qui décidons ce qui nous rend heureux ou pas, que ce soit les richesses, que ce soit les rapports sociaux, que ce soit le fait d'être présent et de réagir ou pas à certaines choses.
Exactement, oui. Chacun décide, plus ou moins consciemment d'ailleurs, parce que chacun ressent son niveau de bonheur en fonction des circonstances de sa vie. Après, c'est à nous, chercheurs en sciences sociales, d'essayer de comprendre ce qui se passe, quelle est cette petite cuisine intérieure que les gens font. Mais en tout cas, un homme, une voix. Chacun donne sa note et c'est pas à un expert placé ici ou là de décider de la recette du bonheur. Alors après, sur le classement qui était suggéré par Gilles Fumet, c'est vrai que dans le classement international des pays, le Danemark, la Norvège, la Suisse aussi, les Pays-Bas arrivent toujours en tête du bonheur pour des raisons. On peut chercher à expliquer les raisons, mais c'est pas du tout évident. Il dit que c'est parce qu'il y a un fort degré de cohésion sociale et d'égalité, ce qui est vrai dans ces pays-là. Mais en même temps, la deuxième région la plus heureuse du monde, c'est les États-Unis, le Canada et puis l'Australie. Donc c'est pas si clair en fait. On essaie toujours de trouver des grands facteurs.
C'est quand même au nord et dans les pays les plus riches qu'on se déclare le plus heureux après.
Oui, mais non, parce qu'il y a aussi, bizarrement, un groupe de pays dans lesquels les gens sont très heureux par rapport, beaucoup plus que ce qu'on pourrait attendre étant donné leur niveau de vie, c'est l'Amérique latine.
Les gens se déclarent heureux.
Se déclarent très heureux, oui.
Donc il y a aussi une question de culture.
Donc il y a une question de culture aussi. Donc il y a une espèce de fonction de transformation qui relie les conditions de vie réelles des gens et puis de la manière dont ils le ressentent, dont ils les ressentent. Et cette fonction, cette espèce d'aptitude au bonheur, elle diffère selon les régions, selon les cultures, assez fortement.
À propos d'aptitude au bonheur, on est en France. Vous consacrez un chapitre dans votre livre au déficit de bonheur en France que vous expliquez, enfin vous donnez des pistes en tout cas. Pourquoi est-ce qu'en France, on n'est pas si mal classé, mais enfin quand même, on se déclare un peu moins heureux qu'ailleurs?
Oui, ça c'est vraiment encore une fois quelque chose que j'ai découvert sans m'y attendre dans les données qui parlent toutes seules. C'est que même en comparant uniquement ce qui est comparable, c'est-à-dire si on compare uniquement des pays européens dans lesquels le contexte est à peu près le même, donc on n'a pas ce problème de contexte, eh bien pour des conditions de vie identiques, les Français se déclarent moins heureux que les Belges ou les Hollandais ou les Finlandais. Donc des pays à revenus par tête équivalents pour des raisons. Enfin, ça paraît vraiment étonnant quand la France, l'éducation est gratuite, la santé est gratuite, la plupart des services publics, on a des prix Nobel, des chercheurs, des ingénieurs, des grandes entreprises, beaucoup de choses qui vont bien. Ouais. Bon, on a aussi un taux de chômage très élevé depuis très 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 longtemps. Mais voilà, on a une sorte de déficit de bonheur, cette fonction de bonheur dont je parlais, elle a l'air d'être un peu déficiente, elle a l'air d'avoir une certaine évaporation entre ce qu'on vit et puis la manière dont on se le représente, dont on le ressent.
Alors les pistes, elles sont assez étonnantes, les pistes.
Mais il y a des raisons. Enfin, je pense qu'il y a à la fois des fondements réels, notamment le chômage, le fait qu'il y a beaucoup de gens pour qui les perspectives sont pas très stimulantes et enthousiantes.
Or les projets comptent beaucoup.
Or le projet compte beaucoup et l'emploi, c'est vraiment un des facteurs de bonheur les plus importants. Ça, dans toutes les enquêtes, le fait d'être en emploi, c'est un des déterminants les plus forts. Et le fait de ne pas avoir d'emploi, c'est une des rares choses auxquelles on ne s'habitue jamais. Donc le chômage, et notamment le chômage de longue durée, c'est quelque chose qui rend les perspectives assez opaques, finalement. Le fait de savoir qu'on a du mal à entrer sur le marché du travail quand on est jeune, et puis qu'on a de fortes chances d'en sortir trop tôt, à partir de 55 ans,
ça mine,
ça rend l'horizon peu attrayant.
Mais il n'y a pas que ça.
Donc il n'y a pas que ça. Même quand on essaie de neutraliser techniquement ces facteurs-là, il reste un facteur un peu mental, culturel, qui est peut-être lié à la sédimentation de cette angoisse, cette inquiétude, le fait qu'on n'arrive pas à venir à bout de ce chômage, qu'on n'arrive pas à faire des réformes un peu comme partout, qui sont imposées par le fait que le monde change sans arrêt, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Il y a des chocs qui sont très difficiles, qui obligent à des réallocations, à des restructurations. Mais néanmoins, les chocs, ce qu'on appelle nous des chocs, hein, c'est des choses qui sont imposées par l'extérieur, qu'on n'a pas voulu ni anticiper. Bon, voilà, en France, peut-être que parfois on a du mal à faire ces choses-là, à s'adapter, à s'ajuster. Et après, on finit par apprendre qu'on a du mal. Et apprendre qu'on est pessimiste
et puis avoir aussi, vous dites, une sorte de peut-être nostalgie des grandeurs.
Alors voilà, le fait de se dire qu'on n'a pas envie finalement de ces ajustements, qu'on n'a pas tellement d'appétence pour ce monde tel qu'il est devenu, tel qu'il nous attend, nous tourne vers le passé, qui devient, qu'on idéalise tout le temps plus, le passé. Alors est-ce que c'est les Trente Glorieuses, est-ce que c'est les Lumières, est-ce que c'est la France de la Révolution, le moment de la francophonie, la grandeur de la France finalement. Finalement, le moment où le modèle français était à son apogée et où il fonctionnait bien, et on sait qu'on a du mal à le réformer, et pourtant on y tient, on est attaché, on voudrait le sauver, on n'a pas envie de faire ce qu'il faut pour. Et donc ça crée une espèce de cristallisation, c'est un peu systémique, de pessimisme et de nostalgie, enfin qui va peut-être changer en fait.
Moi, je ne veux pas du tout encourager
ce pessimisme
et le prendre comme un. Mais vous avez des pistes du côté d'éducation. Vous dites que peut-être notre école aussi, elle nous rend très exigeante. Mais elle nous formate un peu peut-être à...
Ça, c'est un peu une autre piste. Mais enfin, en tout cas, moi, je pense que finalement, j'ai l'impression que les gens se sont rendus compte de ce problème de pessimisme un peu quand même artificiel. Et il n'y a rien de fatal là-dedans. Il n'y a pas un déclin fatal. Il n'y a pas de pente fatale qui nous entraîne vers le bas. Et une fois qu'on en prend conscience, c'est le moment où on dit, bon, ben, maintenant, on arrête. Et j'ai l'impression que c'est un peu en train de se produire en ce moment.
Tant mieux. Autour de la question, pourquoi faire l'économie du bonheur ? Paradis perdu. Tiens donc, c'est Christine and the Queens sur RFI.
C'est joli, j'essaie de me rappeler encore une fois. s'accorde ce rock qui bétonnait.
Paradis perdu, Christine and the Queen sur RFI. Autour de la question pourquoi faire l'économie du bonheur avec notre invitée l'économiste Claudia Sénic. Et tout de suite un nouvel éclairage, celui du chercheur en informatique et professeur au Collège de France, Gérard Berry, qui a la particularité d'être particulièrement curieux et ouvert à tout, tous les possibles et tous les futurs possibles. On l'écoute sur cette question de l'économie du bonheur.
La chose qu'on peut faire, nous, c'est fabriquer des instruments qui aident le bonheur. On ne va pas faire beaucoup plus que ça. Par exemple, les luthiers fabriquent des instruments de musique qui sont très importants pour le bonheur, mais ils fabriquent pas du bonheur. Moi, je vois pas comment je pourrais fabriquer du bonheur, sauf à écrire effectivement des textes. Enfin, avec la science, il y a des gens qui aiment la science, ils sont pas si nombreux que ça. Non, je pense que nous, on peut fabriquer des outils qui peuvent avoir à voir avec le bonheur, mais on n'est pas des fabricants de bonheur. Les fabricants de bonheur, c'est quand même les artistes, hein. Les scientifiques et les artistes, c'est pas la même chose. Des fois, il y en a qui sont les deux, mais... Par exemple, le téléphone portable est un outil très fondamental, pas en Occident, parce qu'il y avait déjà le téléphone, mais en Inde ou en Afrique. Les gens ne pouvaient pas, dans les familles, ils pouvaient pas se parler, ils pouvaient se voir qu'une fois tous les deux ans. Et en Inde, où les familles sont extrêmement soudées et très très grandes, ben ça a changé tout pour eux. C'est un instrument démocratique, parce que ça coûte rien, là-bas. Mais ça peut fabriquer aussi des tas de saletés. Hein. Toutes les choses puissantes ont les deux facettes.
L'économie du bonheur, toujours sur le fil. Vous voulez réagir à cet éclairage, Claudia Sénic?
J'aime beaucoup ce qu'il dit. Enfin, en réalité, je pense que les scientifiques et les artistes créent les instruments, les moyens ou des outils pour le bonheur tous les deux, dans la mesure où ils sont tous les deux créés. Enfin, les deux catégories de personnes sont créatives. Et cette histoire de téléphone portable, pour une fois que j'entends un discours qui fait plutôt la louange des nouveaux, enfin, des innovations.
Des nouvelles technologies.
Des nouvelles technologies.
Dont on s'empare d'ailleurs au sud, en Afrique, en Inde.
Voilà, au lieu de dire on était aussi heureux avant, voire plus. En fait, on voit bien que, effectivement, ces technologies relient les gens les uns aux autres, leur permettent de se parler, de rester en contact, de travailler, de s'organiser. Et que c'est tout à fait essentiel, à la fois d'un point de vue économique, d'un point de vue humain.
Donc ça sert évidemment, tous ces outils, ça sert au bonheur, même si on sait bien, et vous, c'est pas du côté philosophique, le bonheur il nous appartient, c'est à nous de définir, mais c'est ce que vous dites aussi, c'est qu'au fond c'est à nous de définir qu'est-ce qui est notre bonheur, et surtout vous mettez en avant le fait qu'on a besoin d'avoir en tant qu'être humain l'idée de projet, l'idée d'anticipation, que ça aide beaucoup à se fabriquer son propre bonheur finalement.
Ouais, je crois que c'est une des choses que j'ai découvertes dans ce champ de recherche, c'est l'importance pour les gens d'avoir un projet en tant que tel. C'est-à-dire, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'emploi, c'est pas seulement pour le salaire, c'est aussi pour l'intégration, le fait d'avoir quelque chose à faire, de progresser, de réfléchir, d'apprendre toujours plus sur le domaine dans lequel on travaille, d'être en relation avec d'autres, de se projeter dans quelque chose qui évolue
c'est
et qu'on contrôle.
C'est ça qui rend heureux et c'est ça aussi qui peut donner de l'espoir. Alors justement au sud, dans ces pays, vous dites qu'en Amérique latine, on se dit très heureux même si on a un niveau de vie plus bas. Sinon, dans ces cartes ou dans ces représentations du bonheur dans le monde, le sud, l'Afrique arrive rarement en première place. Mais en même temps, ça peut donner justement des pistes parce que dans les pays en transition, dans les pays émergents, il y a de l'espoir, il y a des opportunités, il y a des choses à faire.
Effectivement, par exemple, le World Happiness Report, donc le rapport annuel sur le bonheur que publie maintenant pour la deuxième fois l'Organisation des Nations Unies avec l'Université de Yale aux États-Unis, a mesuré l'évolution du bonheur déclaré par les gens entre 2007 et 2012. Et les régions dans lesquelles ça progresse, c'est l'Amérique latine, les pays de la CEI, une partie de l'Afrique subsaharienne et l'Asie de l'Est. Donc
c'est
exactement ce que vous dites,
hein,
c'est-à-dire
ouais.
Les pays émergents, les pays dans lesquels les opportunités deviennent plus importantes pour les habitants.
C'est très important ça, parce qu'au fond, c'est l'esprit humain qui fonctionne comme ça, au fond on s'habitue, mais on a toujours besoin d'avoir quelque chose devant, de plus ou de mieux, ou à espérer.
C'est comme s'il y avait une espèce de gestalt, de goût pour la progression, ou pour le changement, ou pour la découverte peut-être.
C'est ça hein, que ouais. que vous mettez en avant, ça laisse beaucoup beaucoup de portes ouvertes et finalement on se rend compte aussi que vous flirtez beaucoup avec ce qui est la psychologie et la manière dont au fond nous humains le bonheur, c'est pas si facile que ça, justement.
Mais oui, parce qu'on, enfin, c'est un peu en matière de plaisanterie, mais cette fonction de bonheur, c'est-à-dire cette manière dont je transforme ma vie en bonheur ressenti, c'est évidemment psychique. Donc l'économie du bonheur, elle se fait avec les économistes, avec les psychologues, et un peu avec les sociologues quand on analyse des phénomènes de groupe. C'est complètement à l'intersection de toutes ces sciences sociales. Il y a plus tellement de distinctions et on publie chacun dans les revues des autres. C'est très intégré.
Alors en tant qu'économiste, vous-même vous êtes heureuse, Claudia Sénic, vous êtes heureuse comme une économiste en France. Comment on pourrait dire ça?
Oui, moi je suis assez heureuse. Ouais.
Ça va?
Oui.
Bon bah alors on va se quitter sur quoi? Sur Happy, version drôle de version de Happy que je vous propose d'écouter, une version, on est en France, une version happy, mélancolique. Mmh. Elle est signée Woodkid. Merci beaucoup Claudia Sénic. Et puis avant
merci
de se quitter peut-être, je rappelle le titre de votre livre, L'économie du bonheur, c'est-à-dire bien sûr aux éditions du Seuil. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Demain, changement d'humeur autour de la question comment se forment les nuages. Nous découvrirons pourquoi et comment ils font la pluie et le beau temps et pourquoi ils intéressent aussi les biologistes qui découvrent plein de vie dans les nuages. Tout arrive sur RFI avec Charles Bellabon à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Merci de votre curiosité, amis auditeurs. Dans quelques instants, une poignée de secondes, un nouveau journal.